Le mag de la Coupe du Monde sur Attitude.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Attitude 98.3, 90.7 et aussi www.attitudefm.com et la rubrique podcast. Bienvenue dans Culture Sport. C'est une variante, donc c'est le spécial Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous allons donc faire aussi rapidement que possible la présentation des invités. Donc Christian, bonjour.
Salut Didier.
Donc bienvenue dans notre spécial Coupe du Monde. Ce qu'on propose pour nos auditeurs, c'est on va vous expliquer un petit peu le sommaire et comment tout ça va se dérouler et les rendez-vous qu'on va se fixer ensemble pour la semaine. Christian, c'est à toi.
Oui, bien l'idée avec Didier, Dédé, toute l'équipe sport d'Attitude, c'était de vous proposer un petit match Coupe du Monde comme on avait pu le faire il y a 4 ans en Russie. Le principe, c'est de parler des matchs qui se sont déroulés déjà et surtout de parler des prochains matchs, hein, d'essayer d'apporter notre petite analyse. Voilà, sur un rendez-vous qui ne sera pas quotidien, mais qui sera le plus régulièrement possible suivant nos disponibilités. Voilà, on va parler de Coupe du Monde du Qatar sur Attitude.
Le mag de la Coupe du Monde analyse.
Parfait, donc on est ensemble pendant encore une vingtaine de minutes et c'est avec plaisir donc qu'on va retrouver nos chers auditeurs où on va parler donc des deux matchs qui se sont déroulés précédemment. Donc hier c'était le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Donc ça a été un match, Christian, assez facile à gérer pour les Équatoriens, non? Devant un stade plein avec beaucoup d'ambiance. Et Christian, le déroulé du match s'est déroulé comment?
Ouais, effectivement, c'était le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Une première historique pour le Qatar, hein, qui ne s'était jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Donc forcément, de l'accueillir, ils étaient sûrs de jouer. C'était une équipe quand même qui arrivait dans le vague, hein, parce qu'ils avaient fait que des matchs amicaux jusqu'à présent, avec une préparation forcément compliquée au niveau des résultats. C'est une équipe qui n'a battu aucune formation qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, donc forcément compliqué. En plus, moi, je connaissais aucun joueur personnellement de cette équipe-là. Et en face, l'Équateur, une équipe d'Amérique du Sud qui est un peu sous le côté, hein, forcément.
Et qui a terminé quatrième donc de la Coupe américaine, donc c'est quand même une bonne référence.
Ouais, effectivement, et puis c'est forcément une équipe moins connue que le Brésil, que l'Argentine, même que l'Uruguay, mais c'est une équipe qui arrive à se qualifier régulièrement en Coupe du Monde et qui du coup est fidèle au rendez-vous. Et effectivement, oui, l'Équateur possède un attaquant qui a marqué un doublé en première mi-temps, puisque Valencia marque au bout de 3 minutes de jeu, un but qui est refusé par l'assistante vidéo. Oui. Et donc finalement il va marquer un peu plus tard à la 16e minute sur un penalty. Début de match catastrophique de la part du Qatar. Donc 1-0 pour l'Équateur au bout de 16 minutes de jeu. Et puis à la demi-heure de jeu, Valencia va doubler la mise, 2-0 à la mi-temps. Une bonne première mi-temps de la part de l'Équateur qui a survolé les débats. Et puis en deuxième mi-temps, le match est retombé un peu en rythme, pas trop de rythme. L'Équateur a géré son avance, le Qatar a été incapable de hausser le ton et de se montrer vraiment très dangereux, hein, mis à part une belle action de leur entrée, de leur attaquant qui est rentré, Muntari. Mais à part ça, ils n'ont pas du tout été dangereux. Et au final, victoire logique de l'Équateur, 2-0. Ce qui signifie que pour le Qatar, ça va devenir très compliqué puisque les deux autres adversaires qui leur sont proposés, c'est le Sénégal, champion d'Afrique, et puis les Pays-Bas qui ont une équipe pleine de talent. Donc ça va être compliqué pour nos amis qataris. Quant à l'Équateur, et bien au final ils sont offerts 3 premiers points. Je pense que s'ils arrivent à remporter un des deux prochains matchs, ils seront qualifiés. Donc une bonne entame pour les Équatoriens.
On souhaite bien entendu le meilleur à nos amis sénégalais, mais bon, c'est vrai que sur ce qu'on a vu, l'Équateur fait quand même figure de favori, enfin des deux favoris à ce groupe. Donc je pense qu'on peut noter d'ores et déjà, on va peut-être prendre des paris, mais on va faire comme si. Donc je mets une pièce sur l'Équateur pour terminer deuxième de ce groupe. Qu'en penses-tu, Christian?
On verra après l'ordre des matchs. C'est d'abord un Pays-Bas-Équateur la prochaine journée, et on terminera par un Sénégal un Sénégal-Équateur, donc qui risque d'être forcément plein d'enjeux. On verra, c'est compliqué au bout d'un match, surtout que l'opposition du Qatar était vraiment pas très significative, donc c'est compliqué de tirer des points sur la comète. À ce compte-là, on va dire que l'Angleterre va être championne du monde après ce qu'on a vu cet après-midi. Voilà, en tout cas, on a vu une équipe d'Équateur qui avait de la qualité, notamment sur les côtés. Les latéraux étaient très bons. Devant, ils ont un buteur qui est en pleine confiance, qui s'est blessé pendant la mi-temps, mais que le sélectionneur a choisi de maintenir sur le terrain. Personnellement, je l'aurais fait sortir à la mi-temps. Voilà, 2-0 contre une équipe guère dangereuse, c'était à mon sens plié. Voilà, à surveiller. C'est une équipe toujours embêtante à jouer. Je le sais bien, puisque l'équipe de Suisse a eu beaucoup de mal à les battre en 2014. Donc, à voir la suite des événements pour les Équatoriens. Et pour le Qatar, ça va être compliqué. Il y aura certainement que 3 matchs. Donc, voilà, pour eux, c'était une entame compliquée devant le public, devant une nation qui attendait ça depuis très longtemps. Des joueurs qui sont habitués au championnat qatari, hein, qui, selon David Gigel, qui a travaillé là-bas, a pas forcément un très grand niveau par rapport au championnat de France, par exemple. Hein. Donc, c'est forcément très compliqué de passer de matchs sans trop de rythme à un rythme de Coupe du Monde face à des joueurs qui jouent pour la plupart en Europe.
Oui.
Donc, ça va être le Sénégal pour eux à la prochaine journée. Ça va être compliqué pour eux. On en parlera dans quelques jours.
Parfait. Donc, on va passer au deuxième match dont on va vous parler, chers auditeurs. C'est le match entre l'Angleterre et l'Iran. Donc là, ça a été, une confrontation entre deux mondes bien, bien différents, entre celui de l'Europe, donc avec ses valeurs sûres que sont l'Angleterre, et celui de l'Asie, donc avec l'Iran, donc qui elle aussi est une nation émergente. Certes, ce n'est pas son premier mondial, hein, puisque je sais que Christian, c'est une équipe que tu suis de très très près et qui est à la faveur de tes pronostics, mais là, concrètement, ça a été un choc délibéré en faveur de l'Angleterre. Christian, qu'est-ce que t'inspire ce résultat? Donc, on va venir vous en parler dans le détail. Pour info, donc l'Angleterre s'est imposée 6-2.
Oui, effectivement, j'aime beaucoup l'Iran. Effectivement, c'est une équipe que j'ai découverte il y a 4 ans à la Coupe du Monde. Ils étaient dans le groupe de l'Espagne, du Portugal et du Maroc. Ils avaient battu le Maroc et puis ils avaient fait un nul et mérite contre le Portugal. Ils étaient passés vraiment à deux doigts de se qualifier pour les 8e. Et c'est une équipe que j'ai suivie pendant les qualifications de la Coupe du Monde. Et en fait, parce qu'en Asie, il y a plusieurs tours à passer, plusieurs phases de groupe à passer. Et dans la première phase de groupe, ils ont failli se faire éliminer. Leur sélectionneur, c'était Marc Wilmots, l'ancien bordelais milieu belge, et ils sont presque passés à la trappe. Ils ont dû gagner tous leurs matchs pour se qualifier, et derrière ils ont, avec le sélectionneur croate Skotić, ils ont vraiment relevé la barre et ils ont fait une dernière qualification de groupe très 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 bonne, avec seulement une défaite contre la Corée du Sud. Voilà, en Iran, il y a quand même beaucoup de talent devant. Il y a des joueurs comme Mehdi Taremi, Azmoun aussi, qui a signé pas très longtemps au Bayer Leverkusen.
Oui.
Et puis des bons joueurs comme Jahan Bar, qui joue au Feyenoord. Et puis pour Ali Ganji également. Et puis le gardien que j'adore personnellement, Ali Reza Behramvand. Si j'avais été milliardaire dans un club de foot, j'aurais recruté ce gars-là. Je le trouve très fort. Et malheureusement, pour l'Iran, ils sont tombés contre une équipe d'Angleterre qui, sur ses dernières phases éliminatoires de grandes compétitions, a fait des belles choses, hein, puisqu'ils terminent en demi-finale de la Coupe du Monde 2018 et ils vont en finale de l'Euro en 2020. Mais ils restaient quand même sur un échec en Ligue des Nations, puisque l'Angleterre s'est fait reléguer en Ligue B. Donc effectivement, c'est l'Angleterre, c'est un peu l'alliage entre l'expérience des Harry Kane, des Jordan Pickford, des Harry Maguire, et puis la jeunesse triomphante de Saka, Bellingham,
Rashford
et Mount, effectivement. Et effectivement, le match a vu 8 buts, 6-2 pour l'Angleterre, début de match très compliqué pour l'Iran, et avec notamment la sortie de leur gardien, Behramvand. Oui.
Avec un choc terrible avec un de ses défenseurs.
Voilà, effectivement, sorti à la 20e minute, mais après un gros quart d'heure de soins sur le terrain, il a voulu reprendre, mais c'était pas possible. Et le problème de l'Iran, c'est qu'il y a un très très bon gardien, mais derrière, il y a qu'un seul très bon gardien, on va dire, donc compliqué pour son remplaçant. Et c'est finalement l'Angleterre, hein, qui ouvre le score à la 35e minute par Bellingham, le joueur de Dortmund, qui profite d'un super centre de Luke Shaw pour marquer le premier but. 2-0 pour l'Angleterre à la 43e minute. Saka, le petit joyau d'Arsenal, hein, qui marque le deuxième but. Et puis dans le temps additionnel, Raheem Sterling de Chelsea marque le 3-0. Voilà, 3-0 à la mi-temps, c'était déjà plié malheureusement.
C'était presque dit, oui, tout à fait.
Ouais, en seconde mi-temps, Saka remet un autre but pour son doublé personnel. 4-0 à la 62e minute. L'Iran sauve l'honneur grâce à Mehdi Taremi, son attaquant de Porto, qui est le meilleur joueur iranien. Buteur à la 65e minute. Et puis après, c'est le moment choisi par Southgate, le sélectionneur anglais, pour faire des changements. Sortie de Maguire sur protocole commotion. Et puis après, il a fait sortir sa ligne d'attaque pour parce que une compétition, une Coupe du Monde, ça ne se résume pas qu'à un seul match. Il faut faire tourner un peu la boutique. Et les entrants ont fait la différence puisque Rashford et Grealish ont marqué le 5e et le 6e but. Et dans le temps additionnel, l'Iran a eu à la 103e minute, parce qu'il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu. L'Iran a eu un penalty transformé par Mehdi Taremi. 6-2 pour l'Angleterre qui démarre parfaitement sa Coupe du Monde. Quant à l'Iran, l'Iran c'est un choix que je n'ai pas compris personnellement d'avoir de s'être séparé de leur entraîneur croate pour reprendre Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, c'est un sélectionneur portugais qui était l'entraîneur de l'Iran en 2018. Et c'est un entraîneur qui est très porté sur la défense. Et je trouve que c'est gâché un peu le talent des joueurs offensifs de l'Iran. Il y a vraiment 4-5 super bons joueurs en Iran. Et je trouve que c'est dommage de se réduire à mettre le bus et puis à essayer de résister le plus longtemps possible. Donc j'étais un peu déçu de leur match et surtout de la philosophie de Queiroz. On a vu en fin de match qu'il avait terminé le match avec deux attaquants, avec Taremi et Azmoun qui étaient rentrés. Donc sur le prochain match qui aura lieu contre le Pays de Galles, on peut espérer que l'Iran se présentera avec deux attaquants, avec un visage tourné vers l'offensif, parce qu'il y a des très bons joueurs en Iran, notamment Mohar Rami aussi, le latéral droit qui joue au Dynamo Zagreb et qui est porté vers l'offensif. Donc très déçu de cette équipe d'Iran que j'attendais en 8e de finale, clairement. Maintenant pour l'Iran, il faudra gagner ces deux prochains matchs, et puis pour l'Angleterre, une victoire suffira. Mais une Coupe du Monde, pour ces équipes là ça commence vraiment qu'en 8e de finale, donc c'est avant tout équilibrer les temps de jeu et puis permettre aux attaquants de prendre de la confiance en marquant des buts.
Alors sur l'Angleterre, sur ce qu'ils nous ont fait voir sur ce match-là, donc on ne peut pas porter de jugement définitif et péremptoire sur le niveau de la défense, dans la mesure où ils ont été rarement inquiétés sur les phases offensives des Iraniens. Toutefois, donc Maguire a fait le boulot. Bon, même si il sort d'une période où en championnat les choses ne tournaient pas trop pour lui à Manchester United, où il était plus souvent remplaçant qu'autre chose. Mais bon, il a fait quand même le taf. Au milieu du terrain, donc j'ai bien apprécié, on aura bien apprécié le boulot fait par Jack Grealish, qui est quand même un des organisateurs et régulateurs du jeu au milieu du terrain. En attaque, Harry Kane n'a pas pu concrétiser, mais bon, il a su donner de bons ballons à ses attaquants. Et on a bien aimé aussi donc Rashford pour sa contribution à la victoire anglaise. Voilà, Christian, ce qu'on pouvait dire sur cette équipe d'Angleterre qui, je le conçois et je te rejoins sur ton analyse, fait partie des équipes qu'on retrouvera très certainement au deuxième tour.
Oui, certainement. Là, avec plus 4 en différence de but et une belle victoire, ils sont très bien partis.
Le mag de la Coupe du Monde.
Les prochains matchs.
On est dans l'attente. En ce moment se déroule donc le match entre le Sénégal et les Pays-Bas. Donc Christian, quel regard tu portes sur ce match?
Ouais, on va forcément parler des autres matchs qui vont nous occuper avant la prochaine émission. En commençant par ce Sénégal Pays-Bas, c'est deux bonnes équipes, a priori les deux favoris de la poule A.
Oui.
Malheureusement pour le Sénégal, ils ont perdu leur meilleur joueur, Sadio Mané, qui s'est blessé avec le Bayern de Munich juste avant la Coupe du Monde. Donc ça va être forcément, on ne peut pas remplacer un tel joueur. À noter qu'il y a un ancien joueur de la CFC qui joue avec le Sénégal, puisque Abdou Diallo, l'ancien parisien, a joué à la CFC chez les jeunes, donc c'est un joueur qu'on va suivre avec attention en Charente. Et puis les Pays-Bas, pas forcément de grandes stars, mis à part Virgil van Dijk et puis Matthijs de Ligt en défense centrale, même Fils de Paille aussi, mais qui est remplaçant aujourd'hui. Mais après, les Pays-Bas, on connaît la formation hollandaise avec des joueurs qui sortent de l'Ajax, du PSV Eindhoven ou de Feyenoord. C'est vraiment une énorme pépinière de champions, les Pays-Bas. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas très connus, mais qui ont beaucoup de talent et pour qui ce sera la première Coupe du Monde. Donc les Pays-Bas, un outsider, je les vois pas forcément aller hyper loin, parce que pour moi l'expérience est hyper importante dans la Coupe du Monde, mais en tout cas ça va être l'une des attractions de cette Coupe du Monde, forcément.
Bien entendu, donc on suivra avec attention donc le parcours de ces Pays-Bas, donc qui sont donnés parmi les prétendants, non pas au titre mais au dernier carré, pourquoi pas. Et donc on peut compter aussi sur avec Van Gaal à une équipe qui sera orientée vers l'attaque, donc avec Berghuis et l'autre milieu de terrain dont le nom m'échappe.
Luc de Jong du Barça.
Voilà, Luc de Jong du Barça. ça. Donc là, on aura quand même une équipe qui sera à forte cotation offensive, donc avec une défense à 4, hein, à plat, et avec avec trois milieux de terrain à vocation offensive, pardon, et une attaque où peut-être on verra l'ancien du je cherche son nom, Christian, aide-moi au secours.
De Lyon, Memphis Depay.
Voilà, Memphis Depay, merci pour tout. Voilà.
On va passer à la rencontre de ce soir, hein, qui opposera les USA au Pays de Galles. Les USA, c'est une équipe que j'attends de voir dans cette Coupe du Monde. Ils ont des très bons, des très jeunes joueurs, mais des joueurs avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Je pense à deux joueurs en particulier, hein. Le premier, c'est Reina. Et puis voilà, c'est vraiment des très bonnes équipes. Il y a Mackenzie aussi, hein, qui joue à la ZUF. Pulisic, ils ont vraiment une belle génération, les Américains. Voilà, on connaissait la vieille génération de l'époque 94 quand les États-Unis avaient organisé la Coupe du Monde. Et là, c'est vrai qu'ils ont vraiment une belle génération, avec aussi Adams de Salzbourg et McKennie de la Juve. Sergi Nodest en défense centrale. Ils ont vraiment une équipe sympa à voir. Puis moi, c'est une équipe que j'avais vue, parce qu'ils avaient fait un match amical contre l'équipe de Suisse il y a quelques mois de ça. Et je les ai trouvés très bons. En face, l'Arabie Saoudite, forcément, bah, c'est une équipe qu'on connaît peu. C'est des joueurs qui jouent dans leur championnat, dans le championnat saoudien, entraînés par un Français quand même, Hervé Renard, qui a l'habitude de s'expatrier dans des sélections africaines. On se rappelle qu'il avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie. Voilà, c'est toujours compliqué pour l'Arabie Saoudite, hein, qui avait pris 4-0 il y a 4 ans sur le match d'ouverture contre la Russie. À voir, mais a priori, voilà, l'Argentine devrait s'imposer contre cette équipe d'Arabie Saoudite. Mais là, j'ai dit une grosse bêtise, puisque c'est demain l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Et les USA, ce soir, bien sûr, contre le Pays de Galles, avec la dernière compétition de Gareth Bale, la légende du Pays de Galles. Voilà, le Pays de Galles s'est souvent reposé sur Gareth Bale pour gagner les matchs, mais il y a quand même des joueurs retour. Hein. Il y a des joueurs comme Aaron Ramsey. Donc, à suivre le Pays de Galles, même si je pense que les USA ont quand même un ascendant.
Un potentiel, ouais.
Supérieur.
Ouais, tout à fait. Hein. Donc, t'as bien défini les forces de cette équipe des USA. Donc, qui elle aussi jouera un petit peu dans un schéma à la britannique, avec un 4-3-3. Et j'attends beaucoup de Christian Pulisic, qui est vraiment un joueur de couloir et un distributeur de ballons vers le secteur offensif qui est remarquable. Je les vois également, oui, largement favoris quand même devant le Pays de Galles. Le Gareth Bale, il faudra regarder d'ailleurs sur les coups de pied arrêtés, où Gareth Bale excelle dans ce genre de situation. Et peut-être pourra-t-il profiter d'une ou deux occasions dans le match pour pouvoir nous montrer l'étendue de son talent.
Effectivement. Ensuite, demain matin à 11h, hein, on prend le rythme de 4 matchs par jour. L'Argentine donc jouera contre l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, j'en ai parlé par erreur auparavant. Une sélection qu'on connaît très peu, qui se qualifie pour la Coupe du Monde parce que la zone asiatique est pas la plus relevée du monde, on va dire, mais bon, voilà, ils sont là, et puis ils affronteront l'Argentine, qui est l'Argentine de Messi. Messi, qui arrive bientôt à l'orée de sa carrière et qui n'a toujours pas remporté la Coupe du Monde. Même l'Argentine, attend depuis 1986, de remporter le trophée. Donc, effectivement, ça va être l'affiche la plus déséquilibrée, de ce mondial, jusqu'à présent. Bon, voilà, si l'Angleterre a mis 6 buts à l'Iran, combien de buts l'Argentine mettra à l'Arabie Saoudite? Les paris sont ouverts, en tout cas, ça s'annonce déséquilibré au plus possible.
D'accord. Le match de 14h, donc c'est le match qui va opposer le Danemark à la Tunisie. Donc c'est le groupe B, donc le groupe de la France. Mais on va pouvoir avoir en hors d'œuvre, je dirais, une présentation des forces en présence. Donc clairement, je pense que le Danemark par favori devant la Tunisie. Le Danemark, donc n'oublions pas, a battu deux fois la France ces derniers temps. Donc c'est de référence, même si c'était dans une compétition non pas dite majeure, mais enfin c'était dans le championnat, dans le
la Ligue des Nations.
La Ligue des Nations, merci Christian. Donc oui, on va pouvoir se faire une opinion des forces en présence. Je pense que le Danemark fait partie des équipes qui automatiquement, de manière quasi certaine qu'on retrouvera au deuxième tour.
Oui, puis le Danemark, c'est aussi le dernier demi-finaliste de l'Euro. On rappelle qu'ils avaient démarré la compétition avec l'énorme frayeur de Christian Eriksen, qui avait fait un malaise cardiaque et qui avait donc ému la planète foot. Et puis le Danemark, il n'y a pas forcément de très grands joueurs, mais par contre, c'est une équipe qui est vraiment qui fait corps avec Kasper Schmeichel dans les buts, Kasper Dolberg, les Denisois, Højbjerg aussi, Pierre-Emile Højbjerg, le franco-danois au milieu de terrain. C'est vraiment une très belle équipe, le Danemark, et effectivement, c'est une équipe qui a battu la France à deux reprises en Ligue des Nations, donc ils ont quand même pris déjà un peu l'ascendant psychologique sur les bœufs. Et face à elle, la Tunisie qui sera la deuxième équipe africaine en lice dans ce mondial. C'est un retour en Coupe du Monde, ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas été. Leur leader technique, forcément, c'est Wahbi Khazri, très bien connu des terrains de Ligue 1. Et puis l'attraction pour moi, ça va être de voir Hannibal Mejbri, qui a aussi une histoire avec la CFC, puisque la CFC a organisé un tournoi U11 national auparavant, et Hannibal du haut de ses 11 ans était venu à Angoulême avec le Paris FC, et il avait éclaboussé ce tournoi de son talent. Et quelques années plus tard, il se retrouve à Manchester United et a joué la Coupe du Monde avec la Tunisie, toujours avec sa grosse touffe de cheveux d'ailleurs. Donc j'aurai une attention particulière envers ce joueur.
Parfait. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Donc merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous donc demain, même heure, même endroit, en suivant la Coupe du Monde, et on pourra donc vous parler des deux premiers matchs et des quatre matchs que nous avons suivis d'ores et déjà à partir de maintenant. Voilà, donc à demain, restez fidèles, vous êtes bien sur Attitude 98.3, 90.7. Merci de votre fidélité, merci de votre attention, à demain.
Ok, parfait, Christian et Didier, on se retrouve donc demain, juste après les infos de 18h, mais le sport continue sur Attitude. Christian, va falloir se préparer là, je sais les crampons. Le SA15, Mag Attitude, ça arrive d'ici, 5-6 minutes, et puis à partir de 19h, tu vas nous développer tous les résultats sportifs de ce week-end, et à 19h15, Didier est de retour avec Dédé et la fine équipe, et ce soir, messieurs, vous allez parler de foot avec l'Alliance 3B, et c'est Anan El Archi, c'est ça qui vous rejoindra ?
C'est tout à fait ça.
Bien, allez, rendez-vous demain soir pour un nouveau mag Coupe du Monde sur Attitude dès 18h.